non, vous n'êtes pas dans l'heure bleue sur France Inter avec Laure Adler. C'est moi, Chaussette, dans le bar à chatte, ou devrais-je plutôt dire dans la chatte toute seule, puisqu'en fait je suis seule en studio aujourd'hui, c'est une grande première. Je crois qu'il n'y a pas eu de bar à chatte où il y avait une seule chatte toute seule. Donc voilà, bah on innove, hein, on fait comme on peut avec les moyens du bord et avec le personnel en présence.
Bonsoir.
Bonsoir. Bon, s'il y a quelqu'un quand même, il y a Clément qui m'assiste à la technique, heureusement. Parce que
miaou, miaou.
Je ne peux pas tout gérer toute seule.
Je n'ai pas de leggings orange, je suis désolé.
Ce sera pour la prochaine,
je
pour Juliette.
Je m'excuse platement auprès de tous les auditeurs, auditrices.
Je fais un gros coucou du coup et plein de gros bisous à Félice Potin, donc qui ne peut pas être à mes côtés, qui est bien affairée, je pense bien à elle et je me dis que peut-être qu'elle aura le temps d'écouter cette émission. Alors du coup, pour ce chat toute seule, moi comme j'aime l'éclectisme, vu que c'est une super belle discipline, je suis partie un petit peu dans tous les sens avec ce qui me faisait plaisir. Niveau musique, une petite lecture de texte, deux podcasts assez courts qui m'ont bien fait sourire, que j'ai apprécié, que j'avais envie de partager avec vous. Je les détaillerai au fur et à mesure de l'émission. Et puis voilà, j'espère que vous passerez du bon temps en notre écoute. Et moi, je vais commencer tout de suite avec la lecture d'un texte. Donc là, il n'y a pas de transition, il n'y a pas besoin. Ça peut. je vous en avais déjà parlé dans une émission précédente d'un blog qui s'appelle Le Mexpliqueur, où c'est un mec justement qui tient ce blog et qui parle d'histoires de mecs, de nanas, de féminisme, que je trouve vraiment très intéressant. Et puis voilà, il y avait un petit texte qu'il a pondu là, que je voulais partager avec vous. Donc son blog, c'est www.lemexpliqueur.wordpress.com. Je vous invite vraiment à aller le lire, hein, homme comme femme. C'est vachement intéressant et puis voilà, pour une fois qu'il y a des gars aussi qui se préoccupent des questions de genre, de partage, d'égalité, ça vaut le coup d'être lu. Alors, son papier s'appelle « Pourquoi les mecs préfèrent les mecs ?» Connaissez-vous l'homo socialité ? Homo socialité. C'est un fléau qui peut toucher nos enfants dès le plus jeune âge. Parfois poussé par un ou une camarade, parfois par un ou une aînée, voire même par les parents ou les enseignants. Nos enfants sont tentés par l'homosocialité à la maternelle ou avant. Dans les cours de récré, dans les jardins d'enfants, à chaque instant, on inculque à nos innocents chérubins cette doctrine perverse pour souvent les embrigader à vie. Mais l'homosocialité, c'est quoi d'abord? C'est un terme sociologique pour décrire la tendance à avoir une préférence pour les personnes du même genre dans les relations non sexuelles. En clair, ça commence avec les garçons qui jouent au foot entre eux dans la cour de l'école, pendant que les filles jouent à la marelle. Et ça se poursuit avec femmes dans la cuisine pendant que les hommes regardent le foot à la télé. Si cela vous paraît peut-être un faux problème, dites-vous que ça ne s'arrête pas là. L'homosocialité, ça fait partie de tout un système qui fait qu'on commence par trouver normal d'être entre garçons à la cour d'école et qu'on continue, sans se poser de questions, à rester entre hommes dans les conseils d'administration ou les gouvernements. Parce que oui, les inventeurs de la non-mixité, c'est nous les hommes. Et on la pratique encore très largement. Maintenant, place à la séquence émotion où je vous raconte un souvenir qui illustre le sujet du jour. Dans ma tendre enfance, je passais beaucoup de temps avec D, la fille d'amis de mes parents. Comme il est de bon ton dans une société hétéronormative, on nous disait qu'on était amoureux. L'amitié entre les garçons et les filles, même avant 3 ans, c'est apparemment impossible. Nous nous prenions tout à fait au jeu et D et moi avions décidé de nous marier. Un jour cependant est venue la maternelle, et avec elle, le contact avec d'autres garçons et filles de notre âge. Au début, c'était cool, on chantait sur le pont d'Avignon, on se réveillait mutuellement pendant la sieste et on jouait à se couper les cheveux au lieu de faire nos découpages. Mais petit à petit, j'ai joué de plus en plus avec les garçons et elle de plus en plus avec les filles. Nos centres d'intérêt divergeaient et nos fiançailles ont été rompues sans qu'il fût nécessaire de dire un mot. Par la suite, il y a encore eu quelques ratés dans mon apprentissage du genre. Comme la fois où D s'est moqué de moi parce que ma couleur favorite était le jaune, une couleur de fille, et que j'ai donc choisi de la remplacer par le mauve. Globalement, pourtant, j'avais fini par apprendre ma leçon. Les garçons valent mieux que les filles et il ne faut pas trop se mélanger. Peut-être l'avais-je trop bien apprise. Puisque les filles étaient si nulles, j'ai proposé à mon meilleur ami B d'être mon amoureux et je disais à qui voulait bien l'entendre que nous nous marierons un jour. Cette idylle, fut hélas de courte durée. Alors que j'envoyais des baisers à B dans la cour de récréation, une institutrice débarqua en trombe pour m'expliquer que les garçons, ça tombe amoureux des filles, et vice-versa, et que c'était très mal ce que j'étais en train de faire. Mon engagement précoce pour le mariage pour tous s'arrêta donc là, sous Mitterrand, dans le silence et la honte. Je suis le résultat d'une expérience coercitive destinée à m'enseigner une théorie du genre, et vous aussi. Si je suis aujourd'hui le dégénéré que vous avez devant vous, c'est la faute à la société. Il m'aura fallu quelques années pour cesser de refouler cet épisode qui m'embarrassait beaucoup et pour comprendre tout ce qui s'était joué alors dans mon apprentissage du genre et de la sexualité. Entre 0 et 6 ans, on apprend qu'il y a deux catégories super importantes et qu'elles ont des limites strictes. Oui, tu dois chercher la compagnie des hommes, mon fils, mais pas comme ça. L'homosocialité va souvent de pair avec l'hétérosexualité. Un jour, un mec gay m'a dit « il n'y a rien de plus pédé qu'un hétéro ». C'est vrai que tous ces mecs qui passent leur temps entre eux, quand même, c'est un peu pédé, non ? Ne vous inquiétez pas, ils ont remarqué. C'est ce qu'explique Edge Sedgwick dans « Between Men ». L'homosocialité et l'homosexualité existent selon elle sur un continuum. Chez les hommes, on est homosocial parce qu'on vit dans une société misogyne et que le masculin et le viril sont valorisés au détriment du féminin. Si les hommes sont les êtres supérieurs, quoi de plus naturel que de chercher leur compagnie ? Quand on passe son temps avec des hommes, nos affections, et rivalités, nos hiérarchies et nos jalousies sont ce qu'il y a de plus important. Se prouver à soi et aux autres hommes qu'on a notre place dans cette société masculine prime surtout. Tout comme on attribue facilement, erronément, le maquillage féminin au désir de plaire aux hommes. On se trompe, souvent en pensant que les hommes font ce qu'ils font pour impressionner les femmes. Même quand on croit faire les choses pour séduire, bien souvent ce qui est en jeu, c'est notre place dans le grand concours de bites qu'est notre vie. Il y a évidemment une tension sous-jacente dans cette impitoyable fête à la saucisse. Fréquenter les hommes, admirer les hommes, glorifier leur corps musclé dans l'effort sportif est tout à fait acceptable et normal. Vouloir le toucher est prohibé. Il faut absolument dresser un mur entre nous et la suite logique de nos affections. Parce que pour faire court, l'homosexuel est le pénétré, donc le féminin, donc l'inférieur. Edge Sedgwick s'est donc attaché à montrer comment les hommes utilisent stratégiquement l'homophobie et l'hétérosexualité pour dresser des barrières entre homosocialité virile et désirable et sa voisine l'homosexualité. On passe notre temps à se traiter de pédé et d'enculé et à faire des blagues homophobes diverses, mais finalement pas très variées. C'est notre moyen de casser la tension. Plus je fréquente les hommes, plus j'aime les hommes. Plus je dois crier haut et fort que je ne suis pas un pédé, que je ne suis pas une meuf. Dans le même temps, on utilise les femmes comme des pions sur un jeu d'échecs pour établir une hiérarchie entre nous. Si on cherche à coucher avec une femme pour prouver qu'on est un vrai mec, c'est-à-dire prouver notre valeur dans un monde misogyne, c'est en grande partie pour le prouver aux autres hommes. Parce que ce sont eux nos pères, eux dont le jugement compte pour nous. Au final, les femmes en tant que personnes ne comptent pas tant que ça dans l'affaire. L'homosocialité masculine est donc un cercle vicieux où plus on est viril, plus on glorifie le masculin, plus on doit être misogyne et homophobe pour dissiper la tension inhérente à l'injonction à l'hétérosexualité dans une société qui hait les femmes. On apprend à haïr les femmes, mais on est obligé de les aimer. On apprend à aimer les hommes, mais il est interdit de les désirer. Débrouillez-vous pour faire marcher ce système violemment déglingué. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà fait beaucoup au siècle dernier contre l'homosocialité institutionnelle. Aujourd'hui, on a des écoles très majoritairement mixtes, une armée mixte, des quotas de parité sur les listes électorales, et on fait un scandale quand un lieu est officiellement interdit aux femmes. C'est un peu plus compliqué quand l'homosocialité n'est pas officielle, mais de fait. Les stades de foot ne sont interdits à personne, mais le fait est qu'on n'y trouve pas beaucoup de femmes. On pourrait aussi élargir les quotas à différents domaines. Dans l'entreprise et les conseils d'administration, dans les associations, dans les écoles ou même dans les équipes de sport. Est-ce que ça suffira ? Non. L'homosocialité est à la fois une conséquence du système de domination genrée et une des causes qui contribuent à son renforcement. Ce n'est pas en rendant les écoles mixtes qu'on est parvenu à une utopie féministe et on n'y arrivera pas non plus si je demande à chacun de mes lecteurs de se faire deux nouvelles amies. Il ne peut pas y avoir de solution individuelle quand on s'attaque à un système. Et il n'y a souvent pas non plus un bon bout par lequel commencer. Mais je suis sûre qu'ensemble, on peut vaincre l'homosocialité. Voilà, c'est tout pour moi en petite lecture. Alors, des commentaires dans la salle ?
Non, mais comme je te disais, je l'avais déjà lu ce texte, je l'ai trouvé très pertinent, ouais. Et très juste aussi.
Et oui, oui. Ouais, c'est pas forcément une réflexion qu'on a, enfin, je trouve que ça sort un petit peu.
Ben ouais, après, quand on y fait un petit peu attention aussi, quand même.
Pour ceux qui n'y font pas attention, c'était plutôt.
C'est ça. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il utilise des concepts assez crus, quoi. C'est-à-dire, oui. Il décrit ce qui se passe de manière très brute, quoi.
Oui.
Parce que ça l'est, en fait.
Oui.
Et du coup, ça en devient cru et ça jette encore plus aux yeux, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait. Ouais.
Pas, ouais.
Il est percutant,
ouais.
Par rapport à la manière dont il s'exprime et effectivement comment il met en avant ses idées. Ouais.
Puis il s'appuie sur ce qu'il a vécu aussi.
Oui, tout à fait.
En plus.
Clairement. Maintenant, je vais vous proposer le premier podcast de l'émission. Donc, il y en a deux en tout. Donc, on est une radio, on aime bien écouter les autres radios. Il y a plein de choses merveilleuses qui se font sur d'autres radios ou même sur des web radios ou simplement sur des sites de podcast. Là, j'en ai sélectionné un qui s'appelle Retouche sur Arte Radio. Arte Radio fourmi de podcasts dans tous les thèmes de notre société. C'est génial. Donc, voilà, là, c'est un podcast... qui est d'un documentaire de David Chomentowski. Donc Retouche, ou l'image des femmes dans la mode ou la pub, où il est question de perfection physique, souvent très, très éloignée de la réalité des corps féminins, avec des images qui subissent de nombreuses retouches et des ordinateurs qui taillent allègrement dans la chair des mannequins, des chanteuses, etc., imposant cette fameuse norme irréelle à l'ensemble des femmes. Je vous laisse découvrir ça.
Tout ce qui est mode, beauté, couverture... C'est retouché systématiquement.
Ici, nous avons, pour une grande maison aussi de cosmétiques, qui sort un soin pour le corps, nous avions en fait un tout petit souci, une fesse un petit peu molle, qu'on nous a demandé évidemment de retravailler, ça va de soi.
Ça va du blanc de l'œil un peu plus contrasté, à rallonger les jambes. En fait, la chirurgie esthétique aussi. Hein.
Pendant que nous y étions, nous avons refait un peu le grain de peau, parce que comme on peut s'en rendre compte ici, et ça arrive, ça, très souvent. Une fille qui doit poser nue doit se déshabiller au moins 2 heures auparavant pour que la peau fasse disparaître les marques de sous-vêtements. Ça n'a pas été le cas ici, donc nous avons recréé un grain de peau.
On étoffe un peu les lèvres, on recolle les oreilles. Moi, je suis directeur artistique dans un magazine féminin et dans la pub.
Et puis, nous avons aussi, puisque nous poussons toujours les choses un petit peu loin, retaillé, si je puis dire, l'épaisseur de cette hanche et de cette cuisse. Eh bien, je suis donc Gérard Branchel, le gérant de la société Ondo. C'est vrai qu'on peut se poser la question, à quoi ça sert de demander à une fille absolument de faire un régime terrible, de manger une pomme et un yaourt par jour, alors que derrière, on va, si on trouve que la photo n'est pas assez vendeuse pour vendre une lingerie ou quelque chose comme ça, du coup, on fait de la poitrine ou les seins. Je peux vous montrer un exemple pour une lingerie avec une personne qui a une très très belle poitrine, mais tellement belle qu'on demandait de travailler la poitrine de façon à ce qu'on ne pense pas qu'ils aient été siliconés. Donc on a rendu autant que faire se peut une poitrine naturelle alors qu'elle l'était déjà.
On va avoir un sujet qui va paraître pour le mois de janvier, qui a été fait au Mexique, et la fille a des salières beaucoup trop accentuées, et sur certaines photos, on voit beaucoup trop ses os. Donc ça, ce sont des retouches évidentes. Marie-Noëlle Demey. On se trouve au siège du groupe Marie-Claire. Évidemment, on va retoucher la cellulite. Évidemment, on va retoucher des ombres qui sont dues à un duvet disgracieux. Mais tout ça, c'est tellement normal.
Le public sait qu'il y a quelque chose qui est fait après la photo, sans savoir forcément ce que l'on fait.
C'est comme une femme qui va dans une soirée, qui va mettre beaucoup de maquillage, qui va mettre une belle robe noire, qui va aller chez le coiffeur. C'est de se rapprocher le plus possible de la perfection, même si on n'y est pas.
Le jour où est née la photo, la seconde d'après, la retouche est née. Et aujourd'hui, on se sert d'un outil qui est informatique et qui est 100% numérique, alors qu'auparavant, on le faisait de façon traditionnelle, c'est-à-dire manuellement. Mais ça a toujours, de toute façon, existé.
Je pense qu'il n'y a pas de...
On ne fait pas de bidouillage.
De tricherie réelle. Je pense que c'est plutôt une volonté de donner la perfection que les gens attendent.
En fait, on ne fait pas une photo pour qu'elle soit retouchée de fond en comble.
On part de choses qui sont déjà très bien. Et ensuite, on modifie parce qu'on a des paramètres. On s'adresse à telle tranche d'âge chez la femme. On s'adresse à tel pays. On s'adresse à telle culture.
Vous imaginez l'impact que l'on attend de cette publicité au niveau où on est aujourd'hui de concurrence entre les marques.
Quand on travaille pour le Japon, par exemple, on sait qu'on aura à faire des peaux très blanches, sans grains de beauté, sans boutons, une peau un peu mate. Quand on travaille aujourd'hui pour l'Europe, c'est une peau un peu brillante, on peut laisser des imperfections.
Évidemment qu'on va travailler cette image au maximum pour la rendre au maximum de son impact. Et donc là, on va faire sûrement des retouches.
Donc c'est vraiment de la modification numérique et non pas de la retouche. Le photographe fait de très très belles photos. Nous, on intervient derrière pour des paramètres qui sont, je dirais, commerciaux.
Moi, je crois que, en tout cas, pour ce qui concerne le travail rédactionnel ici, il y a peu de choses finalement de faites en retouche. Rien comparé à ce que je peux voir passer ou ce que j'ai pu voir passer dans ma vie précédente où je travaillais plus sur du people, sur des stars notamment, qui sont mais transfiguré de A à Z.
Par exemple, ici, à nouveau, une autre personnalité du monde du spectacle, qui est ici, par exemple, sur la couverture d'un de ses derniers singles. On intervient sur des choses qui sont, par exemple, une remontée de maxillaire inférieur, parce qu'elle a le maxillaire inférieur assez fort, une légère étroitisation du nez, une diminution de l'espace internasal entre la lèvre supérieure et le nez, et puis enlever des marques de fatigue qui sont assez présentes au niveau des arcades sourcilières, quelques petites brillances par-ci par-là, et puis le dessin par exemple de la lèvre supérieure qui a été refait pour arriver à ce genre de choses. Cette personne charmante au demeurant qui vend des millions d'albums a un problème morphologique et elle ne souhaite pas se faire opérer chirurgicalement. Vous ne la connaissez pas, elle, et pourtant c'est l'original.
Accroché aux branches, l'herbe me semble encore trop.
Alors, nous reprenons le cours de cette émission. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'en a été fini pour moi pour les lectures. En fait, non, je vous avais menti, je m'étais trompée. J'ai deux petites lectures à partager avec vous, très courtes, d'un bouquin que j'aime beaucoup, que j'ai chez moi, qui s'appelle « Petite expérience de philosophie entre amis, casser les codes du quotidien ». Et voilà, j'en ai sélectionné deux que j'affectionne particulièrement et que je voulais partager avec vous. Alors, comme il est dit, hein, c'est des expériences qu'on peut décider de mettre en pratique ou simplement d'y réfléchir. Alors, on est sur de la philosophie, hein, donc bon, ça peut partir un petit peu, mais voilà, ça donne à réfléchir. Le premier petit extrait s'appelle « Changer de galaxie ». La disparition des Martiens est un grand malheur, on ne l'a pas assez dit. Ces gens-là, c'était quand même une solution. Il suffisait de songer à eux pour rêver d'exotisme radical, de dépaysement grandiose, de tout autre. Il fournissait à bon compte un aliment toujours disponible au délicieux vertige de la pluralité des mondes. Intelligence dissemblable, apparences incertaines, pouvoir mystérieux. À présent, plus personne ne leur prête attention. D'ailleurs, tous les extraterrestres sont en crise. La preuve, on a beau les traquer à coups de radiotélescopes géants, pas un mot, pas un signe. Total silence radio. Ce mutisme permanent constitue, pour certains, une preuve indubitable de leur existence. Des êtres supérieurement intelligents ne veulent évidemment pas entrer en relation avec nous. Il n'en reste pas moins qu'ainsi dépeuplé, l'horizon devient morne. Un univers sans surprise vaut-il la peine d'être exploré? Il se révèle vite désolé et désolant. Rassurez-vous, il existe un moyen de s'en sortir. Laissez tomber galaxies inaccessibles et planètes lointaines. Pour changer totalement d'univers, il y a bien mieux, bien plus fort et tellement plus facile. Allez seulement au coin de la rue. Chez un paralysé si vous êtes valide, chez un SDF si vous avez un toit, chez un grand malade si vous êtes bien portant, chez quelqu'un de riche, à tel point que vous ne saviez même pas que c'était possible, si vous êtes très normalement non riche. Chez quelqu'un qui, faute de moyens, rationne ses repas, se chauffe mal, ne se soigne plus, reprise ses vêtements si vous êtes pourvu. Certes, il se peut que tous ne se trouvent pas au coin de la rue. En ce cas, allez au coin suivant, la plupart du temps, ce sera suffisant. En fait, ce n'est que ça, la pluralité des mondes. Juxtaposés, côte à côte, mais s'ignorant. Des gens qui agonisent et d'autres qui naissent. Des malades et des bien portants. Des affamés et des repus. Y ajoutez amoureux et laissés pour compte, aigris et miséricordieux. Et tout ce que vous voudrez. Selon l'âge, l'état du corps, le montant de la fortune, selon encore le climat, le quartier, l'époque, dans ces univers parallèles, pratiquement tout diffère. Depuis les odeurs jusqu'aux croyances, sans compter les vêtements et les gestes, les mots et les désirs. Et même ce que les yeux, sans parler, laissent entrevoir. Aux explorations intergalactiques, préférez donc ces périples intersidérants. Vous y découvrirez combien changer de galaxie est aussi simple et difficile que de changer d'étage. Mais plus déconcertant, cela va de soi. Si vous les observez bien, vos voisins seront toujours plus déroutants que les martiens d'autrefois. Reste que pour les rejoindre, la construction du vaisseau spatial est parfois aussi compliquée. Donc voilà le premier extrait. Et je vais vous lire le deuxième. C'est bien comme ça, ça fait des vacances au Técos. Il s'appelle « Capter le moment où l'on se quitte ». La vie est faite de moments infimes, d'imperceptibles nuances, de métamorphoses microscopiques. Le plus souvent, il faut n'en tenir aucun compte. Les négliger, faire comme si tout était lisse, toujours et tout le temps. Il est judicieux de contrevenir à cette négligence universelle, de prêter attention à ces petites mutations, transfigurations, dérives difficiles à nommer. Par exemple, cherchez à creuser ce qui arrive, juste à ce moment où vous vous séparez, tant de fois, dans une journée, de tant de gens, juste un instant croisé. La plupart du temps, vous ne remarquez même pas. Vous dites « au revoir, à bientôt, à demain, à tout à l'heure ». Et vous repartez, et l'autre aussi. Happé déjà par la suite. Trajet, projet, programme. Pourtant, l'exact instant de la séparation, ce moment précis où l'on s'éloigne, où chacun reprend son monde, est un processus bizarre et mal connu. Vous et l'autre, lentement, vous décollez du temps qui vient d'être commun. Vous vous en coupez, chacun, doucement ou d'un coup sec. Ce n'est pas forcément triste, ni déchirant, ni douloureux. Juste très étrange, dès qu'on y prête attention. Usuellement, chacun regarde ailleurs et se jette en avant, court vers le moment d'après. Voilà justement ce qu'il faut éviter. Au contraire, pour une fois, vous allez tenter de vous installer dans ce temps qui s'éloigne, en éprouver les répercussions. Laissez de côté les pathos et leurs excès. Évacuez les angoisses d'abandon, le désespoir sans fond des solitudes soudaines. Il y a, dans ces multiples petites séparations de tous les jours, ni drame de la rupture, ni noyade effroyable. Pourtant, vous devrez écarter aussi, attentivement, les fausses indifférences. Se dire au revoir n'est ni neutre, ni mécanique. À quoi donc devenir attentif ? À ce subtil passage du temps à deux ou à plusieurs, au temps tout seul. Comment sortons-nous du monde des paroles échangées pour basculer vers le monologue intérieur ? Où se tient entre les deux, fugace et subtil, la frange où chacun se rétracte, reprend ses billes, ramasse sa conscience, baluchon, et la remet sur son épaule ? Par quel chemin sortons-nous du réseau commun, fait de paroles connexes, de répliques échangées, de circuits de phrases et d'impressions vécues ensemble, pour retrouver un régime plus ou moins solitaire du langage et du corps ? Le difficilisme, c'est d'entrevoir cette transition. Si vous y parvenez, que verrez-vous ? Sans doute rien de spectaculaire, une zone grise, plutôt comme un no man's land. Vous ne vous trouvez déjà plus avec les autres, sans être encore tout à fait avec vous-même. Vous vous tenez dans une phase intermédiaire, une sorte de pays neutre. Ni l'un, ni l'autre. Vous venez de vous déconnecter et vous ne vous êtes pas encore rejointe. Mais c'est déjà trop dire.
Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa. Ay, recuerda. Soy tuya hasta el amanecer, se nos agotan las horas. Me olvido, te olvidas al cerrar los ojos. Solo hay melodía. Ay, recuerda, recuerda.
On les laissait terminer quand même. Le deuxième podcast pardon, de l'émission, et le dernier du coup podcast, que j'avais envie de partager avec vous, toujours tiré du site d'Arte Radio. Et là, c'est l'émission Sex and Sound, une petite émission vraiment excellente. Ils en sont à je sais pas combien d'épisodes, au moins le 30e, je pense. Que je vous invite aussi vraiment à aller découvrir. En général, des petits sons assez courts, entre 5 et 10 minutes maximum. Où là, on va entendre parler du dirty talking. Peut-on dire des gros mots au lit? C'est une création de Maya Mazorette. Donc, le dirty talking ou dirty talk en français, le parler sale, les trucs un peu hard qu'on se dit au lit, la sexualité. Étant un espace hautement culturel, on a, paraît-il, même réussi à codifier le dérapage. Il s'agit donc d'être explicite, mais pas trop, de se dire des cochonneries, mais pas trop. Maya Mazorette donne quelques conseils de bon sens illustrés de son réjouissant.
Ah, la sexualité. Grand royaume du n'importe quoi, terre de tous les paradoxes. Sex and sounds.
Sex and sounds.
Car oui, aussi étrange que ça puisse paraître, il existe des tonnes de guides sexo pour bien mal se parler, ou pour bien se parler mal, ou pour mal se faire du bien. Enfin bref, vous voyez l'idée. Whoops, le dirty talking ou dirty talk, en français le parler sale.
Allô Carole, tu peux te laver les fesses, j'arrive.
Alors, le sexe étant un espace hautement culturel, comme vous le savez, il se trouve qu'on a réussi à codifier le dérapage. Il s'agit d'être explicite, mais pas trop, de se dire des cochonneries, mais pas trop.
Ma bite, son histoire.
Bref, en vrai, on ne peut pas faire tout à fait n'importe quoi.
Je savonne un scout et je suce une famille esquimau.
Bien joué, vous gardez votre joker.
Du coup, le dirty talking consiste à marcher sur une ligne très 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 étroite entre ridicule et érotisme en suivant quelques règles simples.
Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire ?
Bon, je vous rassure, ça ne demande pas exactement un doctorat. Soyez, par exemple, ultra spécifique, sinon ça fait comme si vous ressortiez un texte appris par cœur. Décrivez ce qui vous ferait plaisir ou ce qui est actuellement en train de vous faire plaisir. Évitez les formules toutes faites et les comparaisons absurdes.
Ondule comme un ver de terre, jette-moi dans les yeux ton regard de panthère.
Invitez l'autre à répondre, parce que si vous parlez tout seul, ça peut être un petit peu embarrassant. Enfin, faites preuve de bon sens dans les sujets abordés autant que dans le choix des jeux de rôle.
Ce midi, à la cantine, j'ai mangé une très grosse langue de porc.
Bon, tout ça est absolument adorable, mais ça ne nous explique pas pourquoi quiconque voudrait vouloir mal se parler. Parce que si le dirty talking était réservé aux aventures d'une nuit, aux plans bizarres, aux fantasmes d'humiliation, ou même au hate sex, pourquoi pas ? Mais dans les magazines, on nous vend le parler sale comme un édulcorant normal pour la routine de couple.
Est-ce que vous aimez le sexe, monsieur Lebowski ?
Pardon ?
Le sexe, je veux dire l'acte physique, le coït. Vous aimez ça ?
J'étais en train de vous parler de mon tapis.
Attendez, je vous la refais en français. On aime quelqu'un d'amour, on lui fait l'amour, mais en utilisant des noms d'oiseaux au mieux et au pire, en lui faisant la guerre ?
Excuse me, the fuck did you just say ?
C'est quand même pas banal. Et pourtant, c'est banalisé.
Je suis réalisateur de films un petit peu olé olé.
Vous voulez dire un petit peu érotique ?
Non, des films sur la corrida.
Alors pourquoi ? Déjà parce que c'est rigolo de dire des gros mots, alors que normalement on n'a pas le droit, surtout pour les femmes, qui sont censées tenir leur langue et pas que la langue. Au lit, le dirty talking peut d'ailleurs même permettre aux femmes de sortir du cliché de la nana bien gentille.
Elle est gentille, ma fille, hein ?
Oui, mais qu'est-ce qu'elle y aide ?
Et évidemment, parce que c'est du sexe, c'est toujours problématique.
Ne vous laissez pas entraîner par la civilisation du désir.
Et si c'est problématique, pourquoi ne pas justement faire d'une pierre deux coups et utiliser des mots interdits pour des actes interdits ? Autre possibilité, on pourrait aussi dire que ces mots qu'on a appris à trouver repoussants logiquement nous repoussent et que cette distance donne l'espace nécessaire au désir.
Enlève ta petite culotte. Tout de suite.
Sur le papier, c'est formidable, en tout cas, ça se tient, mais plus réalistement, on n'a pas le choix. Bah ouais, pour exprimer nos désirs ou notre plaisir, on manque de vocabulaire, c'est toujours soit des mots pour enfants, soit du jargon, soit de la romance un peu fleur bleue, soit effectivement des mots qu'on considère comme grossiers.
Je ne fais pas l'amour, je baise, brutalement.
Au passage, la plupart des mots grossiers le sont uniquement parce qu'ils évoquent le sexe. Par exemple, baiser, ça voulait à l'origine dire embrasser. Ce ne sont pas les mots qui sont sales, c'est le sexe, comme si le sexe contaminait le vocabulaire.
C'est une véritable infestation.
Et à mon humble avis, on touche là le cœur du problème. La sexualité est considérée comme sale, donc elle dégrade nos mots, ce qui influence à la fois nos fantasmes Et évidemment, la manière dont on perçoit nos partenaires, au moins dans le feu de l'action. Franchement, c'est un peu compliqué de se dire qu'on fait quelque chose de sale à quelqu'un et que cette personne reste propre.
Je t'aime. Moi non plus, je peux pas me passer de toi. Viens, on va prendre une douche.
Ça veut dire qu'on nous présente le dirty talking comme une libération, et dans certains cas, pourquoi pas, mais son fondement reste complètement réac, parce que de manière sous-jacente, les gros mots révèlent juste notre incapacité à communiquer nos envies de manière sereine et pragmatique.
Veuillez, par le présent, agréer l'expression de mes sentiments respectueux et de mon désir sans faille, tout en réceptionnant mon vigoureux coup de rein, s'il te plaît, cordialement.
À l'arrivée, le dirty talking amplifie le cliché millénaire qui affirme qu'il faut que ça fasse mal pour faire du bien. C'est le même scénario qu'on nous ressort dans les théories freudiennes classiques. Pour le premier rapport sexuel, pour les pénétrations alternatives, pour la vie de couple en général, il y aurait un prix à payer pour le plaisir, auquel cas le plaisir est coupable, forcément coupable. Bienvenue au troisième millénaire.
Oh, ça c'est pas propre, c'est sale. C'est très très sale.
Tu m'étonnes. Bon, sur ce, vous faites comme vous le sentez, mais moi, je n'ai qu'une vie. Si je veux qu'on parle mal, je vais sur Twitter. Pour ce qui est du plaisir, je plaide non coupable et dans le fond, je préfère qu'on mette les formes.
Vous prions de bien vouloir accuser réception quant à la consommation de ce podcast.
Arte Radio.
Merci.
.com.
Bisous.
You gotta know, I'm feeling love, made of gold. I never loved another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know, I'm feeling love. You gotta know, I'm feeling love. You gotta know, I'm feeling love. Made it gold, I'll never love her. Another one, another you. It's gotta be love, I said it.
I might as well be in our garden. I said I smell in the air is a dripping rose.
You can be the one for me.
Another soul to be my warden. Of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. Before it's hardened, with the flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun.
You gotta know, I'm feeling love, made it gold, I'll never love her. Another one, another you, it's gotta be love, I said it. You gotta know, I'm feeling love.
voilà, c'était tout pour cette émission en termes d'écoute musicale, podcast, lecture. J'espère que ça vous a plu.
Il était drôle ce podcast.
Hein, il était super drôle.
Tu me rappelles la référence, c'est quoi Sex and Sound?
C'est Sex and Sound, c'est Maya Mazorette qui écrit les textes et qui fait la voix avec une réalisation de Samuel Hirsch. Ce podcast-là, il date de 2017. Et il y en a toute une flopée sur Arte Radio, donc sur Sex and Sound. Il y en avait un très drôle aussi sur les sextoys qui parlaient. Mais en fait, mon choix a été fait sur... voilà. Mais il y a vraiment l'embarras du choix. Je pense qu'on en passera d'autres dans cette émission. C'est bien aussi de faire découvrir ce qui se fait au niveau sonorité radio sur les autres ondes.
Et alors, tu crois qu'on peut retrouver cette émission en podcast ?
Ah oui, mais je vais en parler après. Attends. Non, t'emballe pas. Attends, on a commencé un petit peu en retard. Ça va, en fait, je vais tenir l'heure toute seule. Je m'étonne moi-même. Non, je m'épate, en fait, j'aurais dit. Ouais, je suis fantastique. Avant de faire la speakerine de fin et donc d'expliquer tout ça, je voulais envoyer un gros soutien et plein de bisous à l'émission féministe Dégenrée qui a été diffusée durant 15 ans sur Radio Kaléidoscope. J'ai même du mal à dire le nom de cette radio, vilaine radio. Et aux deux autres émissions ayant subi le même sort, Parloir Libre, qui a pour volonté de briser l'isolement des personnes détenues, et Micro-ondes, dans l'objectif est de tenir à contre-courant et de relayer l'ensemble des luttes qui s'attaquent aux injustices sociales, aux frontières et au racisme. En effet, ces émissions étaient diffusées dans l'agglomération grenobloise sur Radio Kaléidoscope, mais un changement brutal de politique au sein du conseil d'administration de la radio associative a eu pour conséquence l'arrêt sans préavis de la diffusion des émissions. La seule raison avancée serait que ces trois émissions n'entreraient plus dans la ligne politique de la radio. Elles se sont faites dire « vous ne pourrez plus émettre sur Kaléidoscope, vous ne finissez pas la saison, on ne veut plus de vous, pas la peine d'insister ». Donc que cherche donc cette radio en supprimant ses émissions ? L'argument de la ligne des programmes est faible. Il ne dit rien en effet sur le projet radiophonique et associatif qui trinque au profit d'une autocensure. Ne pas déranger les esprits, les élus, les politiques locales, départementales et nationales avec les mots et les mots des premières et des premiers concernés. La parole libre et permanente est menacée par les sujets qui payent, les sujets qui ne dénoncent pas, ne dérangent pas et qui relaient la culture que soi-disant tout le monde attend, mais qui se trouve pourtant déjà sur la grande majorité des ondes. Donc voilà, un soutien à elle et à eux. Il me semble qu'elles cherchent du coup une radio amie pour les héberger, mais je ne doute pas qu'elles ont peut-être même déjà trouvé. J'ai regardé un petit peu au niveau actu, j'ai pas vu passer de... Mais on est en lien, on échange un petit peu et je pense qu'elles vont trouver une nouvelle radio toute gentille pour les accueillir. Donc maintenant, c'est l'heure de la speakerine. Alors, si vous avez aimé cette émission, sachez qu'elle sera rediffusée mercredi, c'est-à-dire demain, à 14h, il me semble.
C'est exactement ça.
Et voilà. 14h, oh, ouais. Je fais tout de tête. Et samedi, à 16h, il me semble aussi. Bon, ce qui ne sont pas toujours des heures forcément très... Hein, par rapport à ce qu'on raconte. Mais bon, c'est pas grave, on verra à la rentrée... Et bien évidemment, sur notre formidable site internet, nos émissions, toutes nos émissions sont en podcast et donc réécoutables à l'infini. Voilà, donc je voulais remercier aussi Clément pour la technique, merci beaucoup. Et je vous laisse continuer ce beau début de soirée à l'écoute bien évidemment de Radio Saint-Aff. Je vous dis au mois prochain et je vous fais à toutes et tous de gros bisous.
Miaou, miaou.
Alors,
miaou,
miaou, miaou, miaou, miaou.
Le bar à...
Miaou.
Le bar à quoi ?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Miaou.
Le bar à chat.
Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Miaou.
Tcha-tcha-tcha.
Qu'est-ce que... T'as le temps.
Le bar à chat. L'émission chat, heureuse,
de Radio Saint-Afrique.
Miaou.